Après avoir vu la fois passée la question de la formation du canon, comme une leçon peut-être encore un peu générale par certains côtés, nous allons voir aujourd'hui quatre textes de l'Ancien Testament. La formation du canon, au moins que les Juifs se sont mis d'accord sur le contenu de la Bible hébraïque à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, que les catholiques étaient d'accord sur le contenu des livres et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament vers le 4e siècle, et puis que ça a été officiellement confirmé par le Concile de Trente au 16e siècle, et que pour le Nouveau Testament, les critères déterminant pourquoi on retenait tel ou tel écrit comme canonique plutôt que tel autre étaient triples. La dimension de fiabilité apostolique, ça devait se rattacher à la première génération, en tout cas de ceux qui avaient connu les apôtres. Ensuite, un critère christologique, est-ce que ce qui était rapporté dans les textes était conforme à ce que l'Église sentait du contenu de la foi relativement au Christ. Et un critère ecclésiologique, du coup, le critère de réception, est-ce que ces livres portaient leurs fruits et étaient pratiqués dans la liturgie. Elle enseigne que, alors en décrétant plus officiellement tel livre comme canonique, l'Écriture, le magistère ne faisait finalement que entériner, confirmer l'intuition du peuple de Dieu qui utilisait de l'Église, qui utilisait ces livres à bon escient dans la liturgie. Quatre textes de l'Ancien Testament, je vais essayer. Un texte davantage récit de vocation, voyez comment. On peut mettre en œuvre un genre littéraire. Ensuite, un texte plus législatif, une des versions du Décalogue, pour voir comment elle s'organise. Un texte psalmique. Et enfin, un texte narratif, la guérison de Naaman le Syrien. Ce sont tous des textes que vous connaissez bien, pour pouvoir aller assez rapidement et dégager peut-être des éléments qui ne vous sont jamais apparus. Le buisson ardent, je vous invite, c'est pour ça que je n'ai rien mis au verso de la feuille 20, à avoir en regard la feuille 20 et la feuille 21, pour que vous ayez d'une part le texte, d'autre part les éléments de commentaire. Les éléments de commentaire, j'ai repris les commentaires qu'il m'arrive de faire dans la petite revue Feu Nouveau, où on demande à des exégètes, notamment, d'assumer leur partie et de présenter un peu les textes qui seront lus le dimanche dans la liturgie, de les présenter davantage exégétiquement. Et on dispose chaque fois d'une page maximum pour un texte. Donc c'est un bon exercice pour présenter un texte, un bon exercice de synthèse. Le contexte le plus général où intervient cet épisode, au livre de l'Exode, c'est dans la vie de Moïse, que la tradition rabbinique divise volontiers en trois périodes de 40 ans. Celle qui va de sa jeunesse et son éducation à la cour d'Égypte, donc l'innocence, Moïse sauvé des eaux, recueilli par la fille de Pharaon, etc., à la cour d'Égypte, 40 ans. Celle où, après une intervention intempestive en faveur de ses frères hébreux, souvenez-vous, il voit un de ses frères maltraité par un Égyptien, il tue l'Égyptien, il espère que la chose ne sera pas commune, mais il est repéré et doit s'enfuir au désert où il épouse une fille d'un certain Jéthro. On a des fils et mène une existence pastorale paisible. Il dit parfois qu'au départ, Moïse a été longuement pasteur, tout comme celui qui allait devenir le roi David. Enfin, troisième période, celle où, appelé par Dieu, il va servir la libération d'Israël et son exode jusqu'au seuil de la terre promise. Puisque le récit, alors l'exode, qui va se prolonger dans le livre des Nombres, et jusqu'au Deutéronome, va nous mener jusqu'à la mort de Moïse, à la fin du Deutéronome, aux portes de la terre promise. L'épisode de sa vocation nous situe au point de départ de cette troisième étape. Là où Dieu, cette fois-ci, appelle Moïse, lui donne sa mission d'aller trouver Pharaon pour libérer son peuple, ce qui est mieux que ce qu'avait voulu faire Moïse par lui-même, en prenant une initiative un peu fougueuse mais malheureuse de prendre la défense de son frère en tuant l'Égyptien. C'est Dieu qui va se charger de libérer son peuple. Le fil du récit, il suit un peu le canevas du genre littéraire récit de vocation, au sens où nous allons voir, après que le contexte ait été rappelé, Dieu intervenir et appeler Moïse, lui donner mission, et puis une réaction de celui qui est sollicité, qui est souvent, qu'il s'agit des vocations prophétiques ou d'autres personnages, une réaction d'abord de crainte devant ce que Dieu demande. Et Dieu doit reprendre la parole, éventuellement promettre un signe, encourager et réitérer l'envoi en mission. Tel est un peu le schéma général qui préside à ce récit. Le contexte général, je suis dans le texte, Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il conduisait le troupeau par-delà le désert et parvint à la montagne du Dieu, de l'Élohim. La manière dont Dieu est appelé, c'est Élohim, une forme de pluriel de majesté et qui pouvait désigner la façon dont des non-juifs, au départ, en l'occurrence des Madianites, avaient une idée de Dieu. Donc, il y avait, semble-t-il, déjà l'Horeb, c'est un équivalent du Sinaï, il y avait déjà une manière pour les Madianites de la région de considérer ce lieu comme sacré. Et le lecteur, de l'ensemble, est averti de ce caractère sacré du lieu. Mais on voit bien que cette montagne va devenir pas simplement la montagne de l'Élohim, mais proprement de celui qui va révéler son nom propre. L'ange du Seigneur, d'Adonai, donc c'est le tétragramme qui est comme utilisé alors qu'il ne va être en quelque sorte révélé que plus tard dans le récit. On voit bien que l'auteur, avec la tradition de son peuple, désigne déjà ainsi Dieu. Et indirectement, l'ange du Seigneur, qui est une manière de signifier le Seigneur sans le nommer directement, par respect pour sa transcendance. L'ange du Seigneur lui apparut, fut vu littéralement, j'ai souligné les occurrences du verbe voir, qui joue un grand rôle dans tout le passage. Fut vu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse vit, et voici que le buisson brûlait par le feu, mais le buisson n'était pas dévorant. Moïse se dit, la première parole de Moïse est intérieure. Je vais faire un détour pour voir ce grand phénomène, pourquoi le buisson ne se consume pas. Moïse dira peu de paroles. Il y a d'abord cette parole intérieure, et puis une autre que je vais souligner un petit pointillé au verset 4. Moïse, me voici, simplement. Et puis c'est Dieu qui va longuement parler, et il n'y aura plus que deux interventions de Moïse qui seront des questions. Au verset 11, qui suis-je, moi, pour aller trouver Pharaon, etc. Et puis, au verset 13, une nouvelle question. Voici, je vais aller trouver les fils d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? Donc, oui, il dit peu de choses et enfin pour poser quand même des questions, montre un peu sa perplexité. Le reste du temps, c'est Dieu qui parle. Dieu intervient, verset 4. Dieu vit qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit Moïse, Moïse. Quand on répète le nom, Abraham, Abraham, Moïse, Moïse, Simon, Simon. Marthe, Marthe, Samuel, Samuel, ça veut dire qu'on a quelque chose d'important à dire. Moïse, Moïse, me voici, dit Moïse. Il reprit, n'approche pas d'ici, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre de sainteté. C'est par la bouche de Dieu que nous entendons dire clairement que cette terre est une terre sainte. Et c'est comme une terre médiane entre la terre d'Égypte, d'où le peuple était esclave, et la terre promise vers laquelle il se dirige. Entre les deux, il y a cette terre sainte du Sinaï, qui est importante. Il dit, moi, le Dieu de ton père, le verbe être n'est pas exprimé, il va être réservé pour la révélation du nom plus tard. Moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc Dieu se présente d'emblée comme le Dieu qui fait histoire au fil des générations. Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder le Dieu. Le Dieu de vos pères sera repris à la fin. Encore Dieu dit encore à Moïse, mais à ce moment-là, il ajoutera Yahvé, qu'on prononce par respect Adonai. Adonai, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On reprend verset 7. Donc Dieu intervient. il appelle Moïse, il donne la raison de son intervention. C'est pour dire qu'il a entendu la clameur de son peuple, et dès lors, c'est ce qui va le motiver à envoyer Moïse en mission. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu sa clameur devant ses gardiens. Je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays vers un pays bon et vaste, un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lui habité par le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Périsite, le Hévite et le Jébusite, l'habitant de Jérusalem. On est en train de préparer déjà, sous forme de promesse, ce qui sera raconté dans la prise de possession de la terre promise. Donc, Moïse est intrigué, il veut voir, mais le voyeur est vu, comme Zachée. C'est Dieu qui le voit. Et Dieu qui dit ce que lui, il a vu, la misère de son peuple. J'ai vu la misère de mon peuple. J'ai entendu ces choses. Et maintenant, quand Dieu dit maintenant, atta, dans l'hébreu, c'est toujours une formule solennelle pour édicter comme une décision ferme ou un verdict. Et maintenant que la clameur des fils d'Israël est arrivée jusqu'à moi, que j'ai vu l'oppression de les Égyptiens les opprimes, et bien maintenant, je t'envoie vers Pharaon, faire sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Une formule que mise en italique, vous voyez quel scan de récit, la suite du récit, elle va être prise au verset 11, au verset 12 encore. Mais alors, comme souvent dans l'évocation prophétique, l'étape de l'objection. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver Pharaon pour faire sortir les fils d'Israël d'Égypte ?» Réponse de Dieu, « Je serai avec toi. » Avant de dire « Je suis qui je serai », la première chose que dit Dieu à nous, « Je serai avec toi ». C'est-à-dire, c'est le nom de l'Emmanuel, Dieu avec nous. « Je serai avec toi. » Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le signe, c'est d'annoncer que l'entreprise va réussir. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Il ne va pas lui donner un signe extérieur. Le signe, je te donnerai, c'est que fais foi dans le fait que cela se réalisera. Tu vas faire sortir le peuple d'Égypte et vous servirez Dieu sur cette montagne. Seconde objection de Moïse. Là, c'est un élément qui déborde un peu du schéma habituel. Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais aller trouver les fils d'Israël et je leur dirai. » Donc on sent que Moïse a acquiescé, il accepte. Qui suis-je pour comprendre? Et puis, « Je vais aller trouver les fils d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je ?» Dieu répond alors en révélant son nom. « Je suis qui je serai. » Et qui est Asher et qui est. Il ajouta, « Ainsi diras-tu aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Adonai, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Ceci est mon nom pour toujours, c'est ainsi que je serai appelé quand on m'invoquera d'âge en âge. » Dieu se présente comme celui qui est, mais cette considération de l'être de Dieu n'est pas à prendre avant tout en un sens philosophique, je suis l'étant, l'existant, etc., mais comme désignant le Dieu qui fait route avec l'homme. La première réponse, c'est « Je serai avec toi ». Et quand il dit en hébreu « Je suis qui je suis », en fait, l'hébreu n'a pas une manière claire de distinguer les temps. Il y a seulement deux temps, comme on dit l'accompli, l'inaccompli. On peut comprendre aussi bien « Je suis qui j'ai été » que « Je suis qui je suis » que « Je suis qui je serai ». Autrement dit, c'est une manière de décliner la fidélité de Dieu à lui-même à partir de ce qu'il a déjà fait sortir son peuple d'Égypte, ce qu'il se présente tel qu'il est maintenant, et ce qu'il fera. Je suis qui j'étais ou je suis ou je serai, c'est une manière de dire, je suis précisément le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, et qui va, le Dieu de vos pères, qui va vous accompagner dans cette aventure pour laquelle je te donne mission à toi, Moïse. Je termine simplement, voyez un peu comment se décline le schéma de l'apparition, qui est en même temps le moment où Moïse reçoit sa vocation. Dans l'Annonciation à Notre-Dame, il y a des éléments. Là, l'ange du Seigneur se présente à Notre-Dame. Il dit, je te salue, combien de grâce, le Seigneur est avec toi. C'est la première chose que Moïse a dit, que Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Autrement dit, l'ange dit déjà, sans le nommer comme tel, le titre de l'Emmanuel en saint Notre-Dame, le Seigneur est avec toi, Dieu avec nous. Puis, je pense, objection de Notre-Dame, qui n'est pas une objection, qui ne demande du persistement, comment cela se fera-t-il? Dieu promet assistance et un signe. Et voici qu'un signe qui est donné, ta cousine Élisabeth, sainte. Et puis, tout comme Moïse a dit d'emblée, me voici, ben, Notre-Dame termine en disant, voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Récit de vocation de Notre-Dame, tout en respectant évidemment ce qu'il a d'unique concernant la venue du Fils de Dieu, mais répond aussi à ce schéma des 30 vocations, la vocation de Moïse, la vocation d'être prophète. Sur l'année 21, vous avez en substance ce que j'ai raconté. Deuxième. Le Deutéronome, un passage que vous connaissez bien. Donc, ayez en regard, cette fois-ci, les pages 22 et 23. C'est dans le livre de l'Exode que Dieu, dans le cadre de l'alliance au Sinaï, donne, par l'entremise de Moïse, le don de la loi, les 10 paroles, et d'autres décrets. Cela est raconté au livre de l'Exode. Mais, sur le même Sinaï où Moïse a reçu sa vocation, du reste. Mais, dans le livre du Deutéronome, qui veut dire littéralement deuxième loi, il y a comme un rappel, par le biais de la mémoire, de ces événements. C'est-à-dire que Moïse est en train de faire des discours, cette fois-ci, au peuple qui est au seuil de la terre promise, et rappelle ce qui s'est passé. Il rappelle l'histoire, et il répète les éléments de la loi. À telle enseigne que nous avons donc deux versions du deux fois le décalogue énoncé. D'une part en Exode, chapitre 19, hein, et d'autre part dans la version du Deutéronome, qui sont pratiquement, qui sont très proches, si ce n'est qu'elles diffèrent par la manière dont le commandement relatif au Shabbat est justifié. On va y rester un peu plus. La structure d'ensemble du décalogue, donc, je prends le texte, au chapitre 5, les versets 1 à 5, on nous dit le contexte dans lequel le décalogue va être réénoncé. Moïse convoqua tout Israël, leur dit « Écoute Israël, les lois et les coutumes » que je fais entendre aujourd'hui à vos oreilles, vous les apprendrez, vous veillerez à mettre en pratique. La mise en pratique est une insistance typique du Deutéronome, généralement. Le Seigneur, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous, alors il rappelle ce qui a été raconté en Exode. Ce n'est pas avec nos pères que le Seigneur a conclu cette alliance, c'est avec nous, nous qui sommes là aujourd'hui, tous vivants. Autrement dit, l'alliance conclue, elle vaut pour cette génération qui est maintenant aux portes de la terre promise. Le Seigneur a parlé avec vous face à face sur la montagne du milieu du feu, et moi je me tenais alors entre le Seigneur et vous, vraiment une position de médiateur important, pour vous communiquer la parole du Seigneur, car devant le feu vous aviez peur, vous n'étiez pas monté sur la montagne. Il a dit. Donc, Moïse a rappelé le contexte dans lequel Dieu a énoncé le décalogue. Maintenant, il rappelle les paroles du décalogue. Moi, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Avant de donner ses commandements, dans un verset préliminaire, Dieu présente sa qualité pour donner ses commandements. C'est parce qu'il a agi pour son peuple qu'il peut en retour lui demander d'observer les commandements qui vont le maintenir dans cette alliance dont il a pris l'initiative. C'est ce qu'on appelle parfois le petit prologue historique. Dieu rappelle ces titres pour oser ainsi demander ce qui est énoncé dans le Décalogue. Moi, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Et puis, d'abord, une série de commandements relatifs à la relation de l'Israélite avec Dieu. Pas d'autre Dieu, pas d'idole, tu ne prononceras pas à tort le nom de ton Dieu. Puis, au verset 17 à 21, il va avoir une série de commandements relatifs à l'attitude vis-à-vis du prochain. Tu ne commettras pas de meurtre, pas d'adultère, pas de rapte, pas de tort, pas de visée sur la femme de ton prochain, pas de honte, etc. Entre les deux, les commandements qui concernent la relation au Dieu unique et les commandements qui concernent la relation au prochain, deux commandements développés et qui sont un peu à la charnière. C'est le commandement du respect du sabbat et le commandement « Honore ton père et ta mère ». Ils sont un peu à la charnière des deux, car on honore le jour du sabbat pour honorer, donner du temps gratuit dans la prière à Dieu, et en même temps, surtout dans cette version-ci, puisque le Shabbat ne travaille pas, c'est une manière aussi de respecter les serviteurs de la maison, etc., et tout le personnel en leur donnant part au repos sabbatique. Il y a comme une forme aussi d'attention requise du père de la maisonnée pour tous ceux qui sont dans sa maisonnée, le repos du sabbat fera du bien à tous. Honore ton père et ta mère, c'est aussi un commandement qui a cette double face. Car bien sûr, le prochain, le plus proche, le premier, c'est le père et la mère, mais en les honorant, on honore ceux par lesquels nous vient la vie de Dieu. Honorer son père et sa mère, c'est quand même honorer de manière particulière la dette de reconnaissance qu'on a à Dieu à travers eux. Chacun de ces deux commandements est énoncé cette fois-ci positivement. Les autres qui entourent, c'était des interdits. Tu n'auras pas d'autre Dieu, pas d'idole, tu ne te prosterneras pas. Avec une justification, car moi le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu exigeant, poursuivant la faute des pères chez les fils sur trois grandes générations, s'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations, si elles-mêmes écartent mes commandements. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Vous voyez que l'idée de la génération traverse aussi le décalogue, hein? Père chez les fils, mais sa fidélité pour des milliers de générations. Et c'est pourquoi ces commandements sont si importants à transmettre à tes fils et aux fils de tes fils de génération en génération. Cette transmission va de pair avec la fidélité de Dieu de génération en génération. De même, les commandements énoncés au verset 17 à 21 sont en formule négative. Ils sont très brefs. Reprenons à l'instant alors les deux commandements charnières, si vous voulez, entre là. On appelle parfois la première table, le commandement de l'amour de Dieu, et la seconde table, le commandement de l'amour du prochain, à la charnière, qu'on garde le jour du sabbat pour le sanctifier, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. On va trouver au verset 16, pour le commandement de l'honneur dû aux parents, la même formule, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, faisant tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le Shabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni le fruit de tes bêtes, ni l'émigré que tu as dans tes villes. Remarquez que la liste décline ceux sur lesquels il ne faut pas avoir de visée jalouse, de mauvais désir, au verset 21. Tu ne convoiteras pas la maison, ton prochain, ni ses champs, son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne. Je reviens au verset 14. Non. Personne de ta maisonnée. Afin qu'ils puissent se reposer comme toi. Donc c'est un commandement qui vise spécialement la responsabilité du pater familial, du père de famille. Tandis que le commandement honore ton père et ta mère nous rappelle que ce père, même en avançant en âge, reste toujours le fils de ses parents. Donc l'attitude paternelle, de la responsabilité vis-à-vis de sa maisonnée et de ses fils, et l'attitude filiale vis-à-vis des parents. Tu te souviendras qu'au pays d'Égypte, tu étais esclave et que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de là d'une main forte et le bras étendu. Ce que Dieu a dit dans le prologue historique, il le reprend ici pour justifier le commandement du sabbat comme un jour de libération de la servitude. Libération de la servitude. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a ordonné de pratiquer le jour du sabbat. Cette justification ici donnée est différente de celle qu'on trouve dans la version du Décalogue en Exode, où là la justification se raccroche au récit de la Genèse, car il se reposa Dieu le septième jour de tout l'ouvrage qu'il avait fait. Ici, la justification est donnée non plus en référence au récit de la création, mais à l'agir historique de Dieu qui a fait sortir son peuple d'Égypte. Et c'est cela, libération que devra rappeler au peuple la pratique du jour du sabbat. La pratique du sabbat a été en fait développée plus tard, surtout à partir de l'exil, au retour d'exil. Mais l'auteur inspiré ne craint pas de rapporter déjà cette exigence au moment de l'énoncé des dix paroles. Il y avait peut-être déjà quelque chose dans cette direction de la part de la mission confiée à Moïse. Mais on voit bien que, historiquement, il y a une insistance sur ce jour du Shabbat, parce qu'au moment où ce texte du Deutéronome est rédigé, hein, c'est devenu particulièrement, déjà, mais c'est confirmé comme un signe vraiment d'identification de la fidélité d'Israël à son Dieu. À tel point que dans l'Évangile, nous voyons que les pharisiens tiennent très fort à ce que Jésus respecte le jour du Shabbat. Il va ramener à son sens fondamental qui est, quitte à enfreindre le commandement de ne pas faire un travail, de faire un travail qui donne la vie en opérant des guérisons. C'est quand même finalement cela. Et s'il y a une justification au Shabbat comme œuvre libératrice, sortie d'Égypte, si Jésus libère les possédés de leurs démons le jour du Shabbat, il honore évidemment le plein sens du Shabbat. Voilà pour un deuxième texte parcouru. Je conviens que c'est un parcours un peu rapide, mais pour que vous voyez quand même quelques éléments. C'est pour ça que je vous ai donné une disposition du texte un peu structuré et un commentaire sur lequel vous, qui ne fait pas plus qu'une page, mais sur lequel vous pourrez revenir davantage à son loisir. Troisième texte, dans la page, ayez en regard les pages 24 et 25. Après un texte de vocation et de mission, après un texte législatif, par excellence, qui est le décalogue, un texte davantage dans la catégorie, la troisième partie de la Bible hébraïque, les écrits de poésie de sagesse. Le psaume 1, donc qui ouvre tout le psautier, qui est un livre qui a mis des siècles à se constituer. Puisqu'il y a des psaumes qui remontent à l'époque davidique, Salomon, David et Salomon, et il y a des psaumes qui sont écrits en période post-exilique. Mais ces psaumes ont été recueillis pour constituer le psautier. Je vous le lis d'abord dans la version œcuménique, le texte liturgique, celui qu'on trouve dans les livres de prière pour prier l'office du matin ou du soir. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Vous l'avez sur la feuille 24, disposée, avec un regard le texte hébraïque. Je vais vous lire l'hébreu pour que vous mesuriez, parce que c'est propre au psaume, qu'il y ait quand même un caractère de musicalité qui aide à mémoriser. Je ferai une petite pause pour vous indiquer quand je change de livre. Et je dirai les numéros de verset. Verset 1. Ashrei ha'ish asher lo halach ba'atzat rasha'im v'derech ha'tayim lo amat u'moshav letzim lo yashav. Verset 2. Kihim v'torat ha'donai chersu u'v'torato yehege yomam v'alayla. 3. V'hayak le'etz shatul ha'pal gemayim asher piryu yiten lo ito. Le Aleu Loïbol. Le Kolacher Yahse Yatseliach. 4. Loken Arushaim. Kim, le Motz Asher Tidefenu Ruach. 5. Alken Lo Yakumu Rushaim Barnishbat. Le Hataim Adat Sadikim. 6. Kiudea Adonai Derek Sadikim. Derek Rochaïm Torret. Vous sentez une certaine musicalité. C'est un psaume, j'ai appris cet psaume par cœur. J'ai été étonné de voir que finalement, je me disais, arriver à retenir ça par cœur, et bien finalement, la musicalité est vraiment porteuse. C'est le rythme du psaume qui permet de retenir, puisque les idées sont souvent répétées en parallélisme. Voyons le déroulé du psaume. En dessous, je vous ai mis une disposition telle que proposée en son temps par le père Jean Radermakers. Dans ce psaume, il y a des personnages, si je puis dire. Quels sont-ils? Il y a d'abord l'homme heureux, dont il est question des Ashrei ha'ish asher, heureux l'homme. Et cet homme heureux va se préciser comme étant, à la fin, sous une forme plurielle, un juste. Puisqu'il est question des justes, au verset 5 et 6, l'assemblée des justes, le chemin des justes. On comprend que l'homme heureux décrit au début, c'est un juste. En regard, il y a ceux qui sont nommés les impies, les pécheurs, les moqueurs. Et entre les deux groupes, il n'y a pas une lutte déclarée, sauf peut-être derrière l'expression « les railleurs », la moquerie, des impies vis-à-vis du juste, mais en tout cas, il y a comme un fossé, un départage, contraste, une incompatibilité. Le combat qui est suggéré, nous sentons bien qu'il y a un contraste très fort entre ce qui est dit de l'homme heureux, le juste et des impies, et du sort qui est le leur, mais ce combat se joue plutôt dans le cœur de l'homme, nous semble. Puis le troisième personnage, c'est le Seigneur, Adonai, qui est mentionné, remarquez-le, seulement en relation avec le juste, verset 2, mais dans la loi du Seigneur et son désir de l'homme heureux. Et réciproquement, le Seigneur, il connaît le chemin des justes. Il n'est même pas dit qu'il ne connaît pas le chemin des impies, il se perdra, purement et simplement. Donc c'est comme si il nous était signifié que l'impie est coupé de Dieu, il n'a pas de relation avec Dieu. Le singulier, l'homme, pourra être relu comme qualifiant le juste par excellence lorsqu'on fera une lecture chrétienne du psaume. Quel est le genre locutoire? Je suis un peu la page 25. Un psaume, d'habitude, s'adresse à Dieu, dit-tu à Dieu. Ou à la limite parle de Dieu en troisième personne, pour louer dans l'assemblée. S'adresse à Dieu pour le prier, le supplier, le louer, crier vers lui. Ici, il n'y a pas de « tu » adressé à Dieu. Autrement dit, c'est un psaume particulier. Il affirme. Il dit « heureux l'homme qui ceci » et l'impie, heureux, il dit. C'est un style affirmatif qui constate. Mais on sait bien que celui qui le lit se sent appelé par Dieu à se ranger du côté du juste et pas de l'impie, bien sûr. Il résonne un peu comme une invitation. Mais de soi, c'est un psaume plutôt du genre didactique et instruction, comme les écrits de sagesse ou les proverbes qui énoncent ce qui est bien pour l'homme, ce qui est mal pour l'homme. La composition, il y a un contraste radical entre le premier mot, heureux, et le dernier, se perdra. Un contraste renforcé par le fait que la première lettre du premier mot, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Allez. La première lettre du dernier mot, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. S'ils étaient distendus à l'extrême, pour signifier cet écart entre le bonheur du juste et la perte de l'impie. Les versets 1 à 3, qui concernent pratiquement, si vous voulez, la description de l'homme heureux, ils sont encadrés par des notations positives, puisque ça débute « heureux l'homme » et ça se termine « tout ce qu'il fait réussira ou prospérera ». Les versets suivants sont encadrés, au contraire, par la notation « il n'en est pas ainsi des impies ». Le contraste donc est vif entre la fin du verset 3 « tout ce qu'il fait prospérera » et puis « l'aucun n'a rechaillé, pas ainsi les méchants ». Contraste maximal. Et le dernier mot se perdra. À la charnière des deux ensembles, on a ce retournement lapidaire qui fait passer de la réussite de l'homme heureux à « il n'en est pas ainsi des méchants ». Il y a des échos internes au texte. Il y a aussi le conseil des méchants, au verset 1, le conseil des impies, auquel répond, au verset 5, l'assemblée des justes. Alors, il y a le développement de l'image. Je ne vais pas être trop long, je vais m'attarder un petit peu sur cet aspect-là. Donc, ce n'est pas dit simplement en termes moraux ou spirituels, c'est dit à partir d'une image très forte. Il sera comme un arbre planté près des cours d'eau qui donne son fruit en son temps, jamais son feuillage ne fane, et tout ce qu'il fait prospérera. On développe l'image. On voit l'arbre planté près des cours d'eau, son fruit, son feuillage. Par contraste, l'image utilisée pour l'impie, la balle qu'emporte le vent, c'est tout. C'est dit en trois mots. Il y a ce caractère de durabilité, d'enracinement, de prospérité, du juste, et l'arbre qui est planté près d'un cours d'eau dans son fruit, jamais son feuillage ne pétrit, et puis au contraire, le caractère tout à fait éphémère, transitoire, passager, fugace de l'impie. Comme la balle emportée par le vent. Ce contraste dans le jeu des images. Je passe à la page 27. Là, vous avez quelques indications sur la portée du terme heureux. Il vient ici en tête du psaume. Et je prends directement. Attendez. Voilà. Pardon, page 26. Vous allez apprendre la page 26. Ce psaume est dit, vous le sentez bien, dans le contraste entre le bonheur de l'homme heureux qui médite la loi du Seigneur et la perte de l'impie qui se perdra. Ce psaume est connu comme le psaume des deux voix. En rappel de l'expression du Deutéronome, au chapitre 30, à la fin du Deutéronome, où Dieu, par la bouche de Moïse, dit « Je mets devant tes yeux deux chemins, la vie et la mort choisis. » Donc c'est un psaume qui invite, on le sent bien, à choisir le chemin du juste. D'ailleurs, il commence en invitant, en spécifiant le juste, comme celui qui n'est pas allé au conseil des impies, qui n'est pas allé dans le chemin des pécheurs, ni à la session des railleurs. Heureux l'homme, on le dit positivement, en le définissant par le mal qu'il ne fait pas. Et ce combat qui explique d'où cette manière de qualification du psaume dit des deux voix. Je vous lis, alors je prends vers le milieu de la page 26, une prière en écho au psaume. Dans le psautier de la Bible de Jérusalem, et aussi dans ce psautier-ci, sont chaque fois présentées à la fin une petite prière à partir du psaume. Donc, Ce psaume-ci, comme tel, n'est pas une prière, il ne s'adresse pas directement à Dieu, mais il donne matière à une prière. Une prière, dans Momicel, se présente toujours par nommer celui qu'on invoque, Seigneur, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui, on rappelle ce qu'il fait pour son peuple, troisième temps, on lui demande, ici, et quatrième temps, une clause finale à laquelle l'Assemblée répond Amen. C'est la structure habituelle d'une oraison. Écoutez bien la prochaine fois que vous irez à la messe, l'oraison d'entrée, Seigneur, toi qui, et puis la demande qui est formulée par le Christ notre Seigneur, Amen. C'est les quatre points. La formule, la prière du Sauté David de Jérusalem respecte ces structures. Seigneur Dieu, premier temps, Seigneur Dieu, bonheur de qui se plaît dans ta loi. C'est l'adresse. Toi qui, tu nous as transplantés près des eaux de ta grâce afin que nous portions par la croix de ton Fils un fruit qui demeure. Au moment, je discerne simplement les temps de la prière. Alors la demande, troisième temps. Fais que nous soyons trouvés fidèles au jour du jugement, que tu puisses nous reconnaître dans l'assemblée des justes. Clausule finale, pour les siècles des siècles. Amen. En même temps, cette belle prière, vous vous souvenez des quatre sens de l'écriture, les sens littéraux, et puis trois sens spirituels. Le sens allégorique, qui dit la réflexion théologique d'application au Christ, le sens tropologique moral, qui dit ce qui est de l'ordre de la conduite, et enfin le sens anagogique ou mystique, qui tourne vers l'accomplissement dernier. Et dans cette prière, on retrouve ces quatre éléments. Le sens littéral, il y en aurait par les expressions que j'ai soulignées. Dans cette prière du psautier de la Bible de Jérusalem, toutes les expressions soulignées sont tirées du texte même du psaume. Donc on se nourrit de la lettre du psaume. Le sens allégorique, c'est de méditer les eaux près desquelles l'arbre s'abreuve comme les eaux de la grâce du Christ. Et de voir dans l'arbre comme une figure de l'arbre de la croix que nous portions par la croix de ton Fils. C'est ça, l'arbre, il va être dans sa résurrection fécond, un fruit qui demeure. Je reviendrai sur ce sens allégorique qui, à première vue, peut paraître un peu audacieux. Le sens tropologique relatif au comportement, on demande qu'on porte un fruit qui demeure et qu'on soit trouvé fidèle, donc avoir une manière de comportement chrétien qui répond à cela. Et enfin, la perspective finale, c'est un fruit qui puisse demeurer, l'évocation du jour du jugement, et que tu puisses nous reconnaître dans l'assemblée des justes, hein, dont il est question dans le, vers la fin du psaume, et pour les siècles des siècles, autant de formules qui tournent vers l'horizon dernier de l'accomplissement au dernier jour. Dans le paragraphe du bas de cette page 26, j'ai repris un extrait d'un auteur qui nous aide à comprendre que s'approprier chrétiennement le psaume, ça ne veut pas dire que l'auteur psalmique, en parlant de l'arbre près des eaux, a pensé en termes chrétiens à la grâce, en parlant de l'arbre qu'il a pensé à l'arbre de la croix, mais ça veut dire qu'il lui a été quand même donné de s'exprimer dans des expressions telles que une fois le Christ connu, le chrétien va pouvoir prier ce psaume en retrouvant dans ses expressions des supports légitimes pour sa prière. Pour autant que l'interprétation qui est faite, les eaux de la grâce, l'arbre de la croix, puisse s'appuyer aussi sur d'autres passages de la Bible et résonne en cohérence avec la Bible. Là, le livre de l'Apocalypse médite aussi l'arbre de la vie, etc. Pour lire. C'est bien formulé. C'est une manière de comprendre l'inspiration qui n'est pas comme si l'auteur du psaume avait déjà pleinement à sa conscience la portée plus plénière qu'auraient ses mots, mais en tout cas, il lui était donné de s'exprimer dans des mots qui vont pouvoir être investis par l'expérience chrétienne. Je vous avais donné l'exemple, je crois rapidement, du psaume du bon berger, je termine par là. Il a exprimé ce psaume du bon berger d'une manière telle qu'on peut l'utiliser vraiment avec bonheur pour les sacrements de l'initiation chrétienne que sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, parce qu'il y a question du bon berger qui me mène près des eaux du repos et me fait revivre, qu'il est question du répand le parfum sur ma tête, d'une onction de grâce, c'est l'onction aussi qu'on reçoit à la confirmation, et il est question dans ce même psaume du bon berger, tu prépares une table pour moi, ma coupe déborde, c'est l'Eucharistie. Voilà, l'auteur de cet autre psaume, le psaume du bon berger, a été inspiré d'exprimer sa confiance en des termes qui vont se trouver légitimement investis pour prier, spécialement les sacrements chrétiens de l'initiation. Voilà pour cette lecture gratuite du psaume. Enfin, un dernier texte. Donc, nous prenons en regard les pages 28 et 29. C'est l'épisode que vous connaissez bien de la guérison de Naaman le Syrien. Je vous donne d'abord, en reprenant sur la page 29, un élément d'introduction générale, et puis nous verrons, ces textes-là, je l'ai retenu pour montrer comment l'art narratif des auteurs est vraiment très, très fin, très élaboré. Le second livre des rois comporte, au chapitre 2 à 13, le cycle du prophète Élisée. Donc, des personnages comme Élie et Élisée n'ont pas donné leur nom à un livre prophétique, il n'y a pas de livre d'Élisée, mais il y a dans des livres historiques, en l'occurrence le deuxième livre des rois, ici, des cycles consacrés à ces figures prophétiques. Le cycle du prophète Élisée. Ce successeur d'Élie joue un rôle majeur dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, de Samarie, entre 850 et 800 avant Jésus-Christ en ville. À côté de ses interventions comme conseiller militaire et politique, Élisée apparaît comme un thaumaturge plus que comme un prophète de la condamnation. On le crédite de nombreux miracles qui sont rapportés au deuxième livre des rois, l'huile de la veuve, je n'ai plus pour moi et mon fils qu'un petit peu de bois, un peu de farine, un peu d'huile, et grâce à l'intervention d'Élisée, cette nourriture précaire va perdurer. Le fils de la Tsunamite, qui était à la mort, et le prophète va intervenir pour le ramener à lui. Une multiplication de pains, qui a pu inspirer aussi la manière dont les rédacteurs évangéliques ont évoqué les multiplications des pains faites par Jésus. Et parmi ces signes, encore la guérison de Naaman, le Syrien. La Syrie est présumément voisine du royaume du Nord. Jésus rappelle cet épisode dans la synagogue de Nazareth lorsqu'il dit « Lorsqu'il y eut une famine en Israël, une veuve de Sarepta, que le Seigneur, donc une non-juive, que le Seigneur s'est appelé, et c'est Naaman le Syrien que le Seigneur a guéri, lui qui n'était pas d'Israël. » Cela parce que à l'époque, Israël refusait la parole du Seigneur, et donc le Seigneur est allé faire profiter d'autres de ses bienfaits. C'est dans ce contexte qu'on s'inscrit. L'épisode occupe tout le chapitre 5. Ce qui est intéressant, c'est la relation entre les personnages, une dizaine en tout. On a d'un côté le roi d'Aram, au nord. Il y a deux rois. Il y a le roi d'Aram. Son général, c'est Naaman. Naaman, il a une épouse. Son épouse, elle a une petite servante. Et d'autre part, il a encore des serviteurs, dont il est question dans le texte. Et une escorte. Donc, voilà les personnages du côté du roi d'Aram. Et de celui qui... Non, le problème, c'est que ce général Valepreux, il était l'épreuve. C'est ce qu'il dit dans la mise en contexte. De l'autre côté, qui a-t-on comme personnage? On a un autre roi, qui est le roi d'Israël.
donc attendu au sens du royaume du Nord. Le roi d'Israël, lui, il bénéficie d'un service d'un homme de Dieu, Élisée. Je dis homme de Dieu parce que c'est nommé par le récit. L'homme de Dieu, à un moment donné, il va utiliser un messager, on va voir le contexte. Et il a aussi, on l'apprendra, un serviteur qui s'appelle Gehazi. Voilà les personnages. Alors, comment fonctionnent les relations entre les personnages? Je ne vais pas lire tout le récit, vous connaissez. Le verset 1, c'est la mise en contexte. Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme estimé de son maître, un favori. C'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram, mais cet homme, vaillant guerrier, était lépreux. Voilà la problématique de départ. Et puis, le verset 2 nous prépare à comprendre l'intervention de la fillette servante de la femme de Naaman. Les Araméens étaient sortis en Rasia, avaient emmené au pays d'Israël une fillette comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître pouvait se trouver auprès du prophète qui est à Samarie, donc dans le royaume du Nord, il le délivrerait de sa lèpre. » Et Naaman va rapporter ses paroles à son maître, « Voilà ce qu'a dit la jeune fille qui vient du pays d'Israël. » C'est ce que j'appelle le premier acte, où on va de l'initiative de la fillette, on remonte jusqu'au roi, qui a connaissance de ce que la fillette a dit. Deuxième acte. Là-dessus, le roi d'Aram dit à Naaman, « Mets-toi en route, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. Ah, » Naaman se met en route, présente la lettre, qui parle de lui, hein. En même temps que te parvient cette lettre, sache bien que je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu lui délivres de sa lettre. Et puis on connaît la réaction du roi d'Israël qui déchire ses vêtements. Suis-je Dieu capable de faire mourir des vivres, hein, substance, on se moque de moi en croyant que je puis guérir de la lèpre. Il s'emporte. Il va y avoir encore un autre qui va s'emporter plus loin. Naaman s'emporte beaucoup dans ce récit. Troisième acte. Élisée intervient. Il fait venir Naaman, lui dit d'aller se laver sept fois aux eaux du Jourdain, vous vous souvenez? Mais Naaman s'emporte. C'est la troisième acte, les versets 8 à 12. Il fit donc demi-tour et s'en alla furieux en disant les eaux des fleuves de Damas, la Vanelle et le Parpar, sont quand même autrement importantes que les eaux du Jourdain. Et puis, je m'attendais à ce qu'il fasse. Pose un geste, il passera la main sur l'endroit malade, délivrera le lépreux. Mais nous, voilà qu'il m'envoie dans ce petit ruisseau qu'est le Jourdain. Il s'en va fuir. Quatrième acte. L'intervention des serviteurs de Naaman. Il y a eu une fillette d'un côté. Puis de l'autre côté, les serviteurs. C'est comme si c'était les petits qui sentent dans leur simplicité qu'il faut faire confiance à Dieu et ce qu'il faut faire. Qui acquiesce, fait la démarche demandée et est guéri. Ses serviteurs s'approchèrent et dirent, mon père, si le prophète t'avait dit de faire quelque chose d'extraordinaire, tu l'aurais fait, à plus forte raison, quand il te dit la toi, tu seras purifié. Naaman obéit et sa chair devint comme la chair d'un petit garçon, il fut purifié. Cinquième acte, il veut manifester sa reconnaissance à l'homme de Dieu. On va dire ça se termine là. Non, il y a encore deux enseignements veut prodiguer le narrateur. Il retourne avec toute sa suite vers l'homme de Dieu. La plus belle récompense qu'il lui fait, c'est d'abord de confesser sa foi. Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Accepte, je t'en prie, un présent de la part de ton serviteur. Mais, obstinément, Élisée va refuser tout cadeau matériel. Alors Naaman dit, mais puisque tu refuses, permets que l'on donne à ton serviteur la charge de tête de deux mulets pour bâtir un autel à Damas et y sacrifier désormais au Dieu d'Israël. Car ton serviteur n'offrira plus de holocauste ni de sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur. Et que le Seigneur pardonne ce geste à ton serviteur, lorsque mon maître, Naaman, entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner, qu'il s'appuie sur mon bras, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon, qui est un de leurs dieux. Et donc, Naaman reconnaît que pour suivre le roi d'Aram dans son culte païen, mais il doit quand même un peu l'accompagner.
et il s'en excuse désormais auprès d'Élisée, qui lui dit « Va en paix ». L'homme de Dieu est un homme d'une grande sagesse. Bien sûr que l'homme est sincère, on ne peut pas lui demander l'impossible. Mais alors il y a la sixième et dernière séquence, qui est relativement savoureuse par certains côtés. Donc, Élisée, il a refusé les cadeaux de Naaman. Mais le serviteur d'Élisée, il la trouve un peu raide quand même. Et donc, il se met en route, une fois qu'Élisée a retourné vers Naaman, il lui dit « Mon maître accepte quand même ceci. » Et puis, il le met dans sa poche, et puis Élisée lui dit « Où étais-tu ?» Et alors, il répond. Élisée lui dit, verset 25, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé nulle part. » Et Élisée lui dit, « N'étais-je pas là en esprit, quand un homme est descendu en âne de son char pour venir à ta rencontre » C'est-à-dire recevoir les cadeaux de Naaman. « Est-ce le moment de prendre de l'argent, de prendre vêtements, olivier, vigne, brebis et bœufs, serviteurs et servantes, quand la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours ?» Géasi quitta Élisée. Il était lépreux et blanc comme la neige. Autrement dit, narrativement, ça signifie quand même un fameux transfert. Hein. Naaman a été délivré de sa lèpre, et c'est Géasi, sa cupidité, qui finit par en hériter. C'est ça que nous dit l'arc narratif du texte aussi. Voilà l'arc narratif d'un auteur dans ce passage. C'est admirable, hein. Il y a moyen de le. Si j'étais avec un foyer de l'Arche qui mime volontiers un évangile ou un passage scripturaire, vous avez une scénette avec une dizaine de personnages, et c'est très vivant. Mais c'est intéressant de voir, on n'a pas eu le temps d'approfondir davantage, mais précisément l'ordonnancement des relations entre les personnages. Le roi d'Aram. Il s'adresse à son collègue. Donc, on traite de roi à roi. Et comme je le disais, c'est par contre les petits qui dénouent les chevaux. Et le roi d'Israël, il ne songe même pas à demander conseil à Élisée. Il commence par se mettre en rage immédiatement. Parce que je suis Dieu pour guérir. Et il ne songe pas qu'il a un homme de Dieu qui peut-être peut guérir. Ce que la fillette, elle avait bien compris. S'il demandait à l'homme de Dieu qui était à Samarie, alors il serait guéri de sa lèpre. Donc, le roi d'Israël a moins de foi que cette fillette du peuple. Mais alors, quand Élisée apprend la réaction du roi, alors là il en prend scène. Il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et de fait, nous voyons que le parcours de Naaman, évidemment, plus important encore que la guérison de sa lèpre, il y a sa conversion au Dieu d'Israël. Qui signifie à travers ce récit. C'est un texte qui est pris dans la liturgie, je crois, un dimanche, où l'évangile correspondant, c'est la guérison de 10 lépreux, dont seul le Samaritain songe à venir rendre grâce. Merci de votre attention. La fois prochaine, nous verrons 4 textes du Nouveau Testament.